Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est les Zestes de Culture du mois d'avril. Aujourd'hui avec Sandrine, Christelle, Patricia et Pascal, on va parler de BD, de jeux, de romans et de mangas. Une édition encore très éclectique de Zestes de Culture. Et on va commencer par Pascal qui va nous parler d'un livre qui s'appelle « La nuit est mon jour préféré ». L'auteur c'est Cécile Ladjali. Bonjour Pascal.
Donc oui, je vais vous parler du dernier livre, du dernier roman paru aux éditions Actes Sud de Cécile Ladjali, « La nuit est mon jour préféré ». Dans ce livre, il y a Tom. Tom est psychiatre dans un hôpital à Tel Aviv et s'occupe entre autres de deux patients. Steiner, qui est interné pour schizophrénie et paranoïa, qui est un ancien harpiste qui a joué aux philharmoniques d'Israël, et Roshan, qui est palestinienne et qui, elle, est internée pour un déni de grossesse et une tentative de suicide quand elle a appris qu'elle attendait un bébé. Et son dernier patient, c'est lui-même, en fait. Il fait des recherches poussées sur le ressenti et la vie du bébé in utero. Et grâce à ses recherches, en fait, il remonte un peu le cours de sa vie et il cherche des explications à ce qu'il est aujourd'hui. Alors, Tom a une attirance pour Roshan, d'une part parce qu'elle est très belle. Il a une attirance pour son mystère parce qu'elle se réfugie dans un silence obstiné. Elle se mure dans sa solitude et sa peur. Il essaie de la réconcilier avec le monde, avec cet univers de psychiatrie et aussi avec son bébé, parce que son bébé est toujours vivant, elle va accoucher et il souhaite en fait qu'elle accouche avec un minimum de sérénité. Steiner, là-dedans, Steiner, c'est le philosophe. Malgré sa schizophrénie et sa paranoïa, c'est le plus sage de tous. C'est un artiste et, en fait, c'est aussi grâce à lui que les choses vont se dénouer, que les passerelles vont s'établir entre tous ces personnages-là. Et on retrouve en fait la thématique préférée, enfin je me permets de le dire, après je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est vrai, il faudrait lui demander, de Cécile Ladjali, sur l'incompréhension entre les gens, leur enfermement dans leur propre bulle et l'incapacité à communiquer, à partager véritablement ce qu'ils sont. Cette thématique-là, on la retrouve aussi dans son livre illettré, un jeune qui ne sait ni lire ni écrire et qui lui aussi est enfermé dans ce manque de communication. Et on retrouve ce thème-là dans La nuit est mon jour préféré. Je vais vous lire un petit extrait d'un dialogue entre Steiner, le harpiste, et Tom, le médecin, pour vous en donner un petit exemple. Lucas Steiner, c'est moi. Je joue la comédie, Tom. Je vous parle, je vous fais croire des choses, et c'est si drôle quelquefois. Vous tombez dans le panneau. Quel panneau ? Tous les bobards que je vous raconte. Vous m'avez menti récemment ? Je passe mon temps à ça, mon pauvre ami. Mais cela n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que vous ne m'écoutez pas. Il s'agit pourtant de mon métier. Si cela vous rassure de le penser, je vais cesser de vous contredire. Je ne vous en veux pas. Je vous aime bien, Tom, même si vous êtes comme tous les autres. Et comment sont-ils, tous les autres ? Ils font mine d'écouter les voix, mais ils ne les entendent pas. Ils ne les comprennent pas, c'est ça ? Non. Et pourquoi sont-ils incapables de comprendre ce qu'on raconte, Monsieur Steiner ? Il y a plein de raisons à cela. La première est que chacun est centré sur son nombril, sur ses petites préoccupations intimes, au point qu'il ne reste plus de place pour personne. Mais il y a d'autres raisons. La fatigue que génère l'empathie, la peur de rencontrer son voisin, le dégoût de la différence, le renoncement au voyage. D'après vous, le dialogue authentique avec l'autre serait un voyage ? Un voyage risqué, mais un voyage merveilleux ? Aussi merveilleux que celui que nous avons fait ce matin.
Donc c'était un extrait de La nuit est mon jour préféré, Cécile Ajali. Cécile Ajali, Pascal, c'est une des auteurs que vous affectionnez particulièrement ?
Oui, j'aime beaucoup, mais justement, cette plongée dans l'intimité des personnages, dans ce thème de la communication, de l'isolement, de la solitude. Dans ce livre-là, elle trouve une solution, en fait, la passerelle. Bon, le protagoniste, c'est Steiner, mais la véritable passerelle, en fait, c'est l'art. Donc après cet extrait, Steiner va parler de l'art et il dit que c'est le véritable passeport en fait pour pouvoir partager. C'est ce qui réunit, c'est un dialogue universel et les personnages se réunissent autour de l'art et de l'harmonie que l'art procure.
Bon, merci. On rappelle l'éditeur peut-être.
Alors, La nuit est mon jour préféré aux éditions Actes Sud qui est paru cette année, 2023. Voilà.
Et on écoute J'ai vu du Niagara qui est votre choix musical pour
oui,
aujourd'hui.
Oui, soyons fous.
Alors, on écoute toujours Zeste de Culture et du mois d'avril. Et on va maintenant parler de jeux et avec vous, Patricia.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente Complice. Alors, c'est un jeu pour deux personnes exclusivement, à partir de 10 ans et puis pour des parties d'environ 20 minutes. Complice, c'est un jeu coopératif dans lequel vous et votre complice allez essayer de cambrioler différentes maisons. À chaque fois, il faudra passer de pièce en pièce en évitant les meubles, les murs et surtout en évitant les lasers qui protègent un petit peu chaque maison. Donc, il faudra faire attention parce que chaque joueur doit chausser des lunettes qui feront que la moitié des lasers seront visibles ou pas. C'est-à-dire, l'un des joueurs chaussera des lunettes bleues et ne verra que les lasers bleus. Celui qui aura les lunettes rouges ne verra que les lasers rouges. Donc en fait, on voit un laser sur deux, c'est compliqué pour se déplacer dans les pièces sans faire sonner l'alarme. Donc, alors comment cela va-t-il se passer ? Bien, dans la boîte, on va prendre une salle. En fait, c'est un niveau, on va dire un niveau qui est composé de quatre salles différentes.
D'accord, c'est comme un jeu de plateaux, mais avec quatre plateaux différents, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Et en plus, les plateaux sont de différentes difficultés. Donc on commence avec le niveau 1 et chacun va retourner un sablier et attendre à peu près 2 minutes pour visualiser le plateau, voir où est-ce qu'on commence pour rentrer dans la pièce, où est-ce qu'on sort de la pièce, c'est matérialisé avec des pas. Et bien sûr, où sont situés les lasers Alors, on peut essayer de faire jouer sa mémoire, mais enfin, il y en a quand même pas mal. Et dans chaque recoin de cette maison, il y a des pièces qu'il va falloir récupérer, ainsi que des trésors. Voilà, donc dans un premier temps, on essaye de visualiser un maximum les dangers, les meubles, les pièces, les lasers. Et ensuite, dans un deuxième temps, le joueur qui aura les lunettes bleues va retourner le sablier et on aura deux minutes pour... Il aura deux minutes pour donner ses instructions au joueur rouge qui lui aura un feutre. Et il va lui dire, à gauche, un peu plus à droite, un peu plus devant, vas-y, va chercher les pièces, reviens sur tes pas, etc. etc. jusqu'à repartir et sortir de la pièce. Alors bon, c'est pas évident, faut surtout se mettre côte à côte, parce que si on est face à face, forcément la gauche et la droite, on s'amène un peu les pinceaux. Ça m'est arrivé. Une fois que le sablier est terminé, normalement on a eu le temps de sortir de la pièce et on va compter les points. Donc pour chaque pièce que l'on a récupérée, et bien on va marquer un point. Les trésors valent un petit peu plus. Si on a touché un laser, on enlève des points. Enfin bon, on fait un petit peu ça, son résultat. Et ensuite on a une fiche qu'on appelle une fiche planque, où on va aller cocher le nombre de pièces qu'on aura récupérer. Voilà. Donc, une fois que cette salle 1 du niveau 1 sera faite, on peut passer au deuxième. Et à chaque fois, évidemment, la difficulté augmente un petit peu. Et on continue comme ça à grimper sur notre fiche planque. Et lorsqu'on arrive à un certain niveau, rentre en compte la police. Et là, évidemment, il y aura des contraintes supplémentaires. Par exemple, le joueur bleu n'aura que certains mots à dire et pas d'autres. Donc déjà, c'est pas facile de communiquer avec quelqu'un qui n'y voit rien. Mais alors là, en plus, il aura certains mots qui seront interdits. Et plus on va monter en difficulté, plus on aura comme ça des contraintes très très gênantes pour les cambrioleurs. Voilà. Lorsqu'on va arriver sur la fiche planque au niveau étoile. Là, ça veut dire qu'on a réussi le niveau fortiche, on passe au niveau 2, voilà. Et ainsi de suite, jusqu'au niveau 5. Je vous avoue que déjà le niveau 2, c'est hard, alors le niveau 5, je n'ose même pas imaginer. Voilà, alors ce jeu, moi je l'ai trouvé super sympa. Alors bon, c'est restrictif parce qu'on peut jouer qu'à deux, mais il y a des tas de gens qui cherchent aussi des jeux à deux, et il n'y en a pas beaucoup. Donc ça valait le coup de le mettre un petit peu à l'honneur. En plus, il est tout nouveau, hein. Il est de 2023. J'aime assez le fait qu'il repose sur la communication. Faire confiance, bien écouter l'autre. Voilà, c'est une belle découverte de ce début d'année. Et vous pouvez venir le tester dans votre médiathèque de Saint-Sevé.
On reste alors sur ce thème de la communication. On va voir si la suite nous dit la même chose. Et alors, ton choix musical, votre choix musical, pardon.
Voilà, alors moi, je reste un peu dans l'ambiance braquage. Et on va écouter Sully Séphile et son titre, Je voulais. Voilà. Merci.
Décroche, merde. Allô, ouais, c'est moi.
Mon Dieu, t'es où? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais? T'es devenu fou?
Écoute-moi. Calme-toi, écoute-moi, j'ai plus beaucoup de temps, écoute. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Seulement c'est pas avec ma musique qu'on aurait pu faire tout ça. J'avais beau poser mes lyrics, mais je décrochais pas de contrat. Du coup j'ai craqué, et dans cette banque je suis rentré armé. Que personne ne bouge, c'est le premier truc que j'ai claqué. Ensuite j'ai dit à ce type de remplir mes sacs, d'éviter de déclencher l'alarme s'il ne voulait pas que je la batte. Tu sais j'aurais fait de mal à personne, je voulais le faire baliser. Prendre tout ce fric et disparaître, c'est comme ça que ça devait se passer. Mais manque de bol pour moi, y'avait ce putain de keuf en civil. Ce qu'on s'est mis à me canarder, et de là c'est parti en vrille. J'ai dû me défendre, j'ai répliqué, des innocents ont été touchés. Ça tirait de tous les côtés, ça criait, j'étais dépassé. Dans toute cette merde j'ai pris une baston dans le ventre. Tant bien que mal j'ai tout de même réussi à quitter la banque. Les flics ont rappliqué, c'est sans le pognon que j'ai dû m'échapper. Depuis je suis en cabale, sais plus quoi faire, je sais plus où aller.
Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais te couvrir de cadeaux, d'offrir ce qu'il y a de plus beau. Je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric. Je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique. Je voulais qu'on vive pleinement, je voulais qu'on kiffe vraiment. Je voulais seulement te voir sourire, t'entendre rire plus souvent.
Et on va parler de BD ado avec Christelle maintenant. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Est-ce qu'on reste sur ce thème de la communication ou pas du tout Christelle?
Ah, c'est sous-jacent. Oui, on ne peut pas dire que c'est sans rapport. On va en parler, ouais.
Ah bah c'est parfait.
Ça alors, sera une des solutions.
Je te laisse en parler. Je vous laisse en parler.
Donc, aujourd'hui, je voulais vous présenter un roman graphique qui est paru en septembre 2022 aux éditions Jungle et proposé par Aurèle Gaillard au scénario et Kamika au dessin. Alors, juste avant de commencer, pour qu'on cerne un petit peu l'univers et les préoccupations de Kamika, je voulais vous citer ses deux œuvres précédentes. Donc, elle a écrit et dessiné Les Enfants Trinquent, qui raconte l'enfance d'une petite fille qui vit aux côtés de sa mère alcoolique. Et c'est aussi elle qui a fait l'adaptation en BD de Ma vie de courgette. Voilà. Alors, pour ce qui est de Rature indélébile, on va suivre Juliette et son entrée en quatrième. C'est assez classique. C'est un groupe de quatre amis, amis depuis toujours. Et là, à la rentrée de quatrième, le groupe est scindé en deux de par la répartition des classes, et Juliette se retrouve avec Mathilde. Tout pourrait continuer comme avant, sauf que Mathilde a changé et elle recherche maintenant la popularité. Surtout qu'elle a un crush avec Thomas. Alors que Juliette est loin de cette dynamique et elle ne comprend pas du tout ses choix. Alors jusque-là, on est dans des problématiques liées au passage de l'enfance à l'adolescence, à la question de l'identification, de l'affirmation de soi et du rapport au groupe. Sauf que le récit bascule vers tout autre chose quand un mécanisme d'exclusion se met en place à l'égard de Juliette. En fait, une photo d'elle à moitié nue va être prise, ou on va dire plutôt volée dans les vestiaires du collège et diffusée sur les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, la photo devient virale. Et le roman graphique, lui, tourne à l'illustration explicite, juste et réaliste, je dirais, du harcèlement scolaire et même du cyberharcèlement qui amplifie violence et souffrance. Alors, côté écriture, Aurèle Gaillard décortique les rouages du harcèlement, du déclencheur jusqu'à la spirale infernale dans laquelle les victimes ont peine à s'extraire. Et le titre, en fait, prend tout son sens. On parle de rature indélébile, comme toutes les humiliations qui vont écorcher l'âme et le cœur des victimes, mais aussi comme les marques visibles sur les bras de Juliette. En fait, elle se scarifie et ses entailles sont exutoires et rendent sa douleur palpable et permettent aussi de donner une voix à sa détresse. Du côté de Kamika, on peut parler d'une technique d'illustration épurée. On est dans une bichromie blanc-violet avec des traits au pinceau noir. Alors, en fait, l'intérêt, c'est qu'une fois que l'œil est habitué à ce code graphique, il est plus parasité par les effets artistiques. Bon, alors moi, j'adore les effets artistiques, le travail du dessin et tout, mais c'est vrai que là, ça permet vraiment de se concentrer sur la thématique. Et voilà, ce que j'ai apprécié en fait dans cette lecture, c'est le décryptage efficace du phénomène de harcèlement amplifié par les réseaux sociaux. C'est le langage utilisé qui est totalement adapté au personnage et les traits qui restent très vifs et expressifs. On peut mettre un plus sur le dénouement. Donc on parlait tout à l'heure de communication. C'est là qu'elle entre en jeu parce qu'au risque de se répéter, pour ce sujet comme pour d'autres, c'est la parole qui va libérer. Et c'est elle qui permet d'enclencher les mesures à l'encontre des harceleurs. C'est elle qui sauve, quoi. Je recommande vivement cette BD à tous les collégiens. Difficile de donner un âge dès la 5e, dès la 6e selon la maturité de chacun. Mais voilà, après vraiment jusqu'aux parents et même en fait jusqu'à tous les adultes qui vont être en relation avec des pré-ados et des ados quoi. Et le plus, vraiment le plus de cette BD, c'est qu'à la fin, il y a une sorte de guide contre le harcèlement, un espèce de dossier pédagogique en fait, qui permet d'intégrer les meilleurs réflexes pour sortir de ce gouffre et pour aider aussi à s'en sortir. Par exemple, il y a des encarts, le harcèlement c'est quoi, que faire, ou 10 conseils pour combattre, pour le combattre, avec une colonne victime et une colonne témoin. Il y a aussi le numéro que je vais rappeler, le numéro à appeler si on est victime ou témoin de harcèlement, c'est le 30-32. Voilà. Et puis la petite touche personnelle des autrices en fait, qui s'implique à la fin du volume en racontant une expérience personnelle qui les met en relation avec le harcèlement, donc elles se dévoilent. Alors bon, vous vous en doutez, c'est un sujet terriblement d'actualité. Hein. Il touche un enfant sur 8, selon les chiffres officiels. Donc à prendre voilà, avec des pincettes. Et c'est pas la seule BD qui traite du harcèlement. Donc je voulais juste prendre 2 minutes pour parler de citer 3 autres BD sans rentrer dans les détails, qui parlent aussi du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc il y a Chaque jour Dracula, alors cette BD elle est sortie en 2018 et elle parle du harcèlement dès l'école primaire. C'est une BD qu'on peut retrouver dans nos médiathèques aussi. Il y a Camélia, sortie en 2021. Alors là c'est une BD coécrite par Nora Freys. C'est une maman en fait qui a perdu sa fille. Sa fille s'est suicidée suite à du harcèlement, justement. Et donc, la maman a créé une association pour parler et dénoncer ce phénomène. Et on en parle à la fin de la BD. Il y a aussi une espèce de dossier pédagogique. Et enfin, je voulais finir avec Azerka, des larmes au succès. Et là, c'est un récit qui retrace le parcours d'un jeune chanteur-compositeur qui a percé sur les réseaux sociaux en parlant du cauchemar dont il a été victime à l'école. Et là aussi, on a un dossier pédagogique avec des éléments factuels et des solutions. Voilà, et le plus de cette BD, c'est la capacité de diffusion, la visibilité et l'impact de la parole amplifiée auprès des jeunes du fait que ce soit un YouTuber qui leur parle. Voilà. Donc, je conseille vivement ces BD aux jeunes et aux adultes.
Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Donc, vous allez nous parler de Planète, qui est une réédition. Je vous laisse citer l'auteur parce que je suis toujours aussi douée pour prononcer les noms japonais.
Alors, je ne sais pas si je suis plus douée, mais c'est Makoto Yukimura.
Alors, de quoi ça parle Planète ?
Alors là, on va faire un voyage intergalactique. Aujourd'hui, donc, je vous présente ce manga. Bouclez vos ceintures, la fusée va décoller. Donc, c'est une série courte pour un manga, puisqu'elle est complète en 3 tomes. C'est assez rare pour un manga. Par contre, c'est un manga, ce sont 3 tomes assez volumineux. Ce sont des mangas plutôt ados, adultes. Effectivement, le manga Planète avec un S, est paru au Japon en 1999 et a été réédité l'an dernier en France dans une version qu'on dit perfecte par les éditions Panini. Donc, en quoi c'est une belle édition ? Bien, tout d'abord, cette nouvelle édition est agrémentée d'un important dossier qui a été rédigé par des experts du CNES. Donc le CNES, c'est le Centre National d'Études Spatiales. Et cet important dossier figure à la fin de chaque tome et apporte beaucoup d'informations complémentaires et scientifiques. L'autre petit plus de cette nouvelle édition, ce sont les scans colorisés. Donc ça, c'est assez rare aussi dans les mangas. Voilà pourquoi je le précise. Donc ces nouveaux scans colorisés sont intégrés là à chaque début de nouveaux chapitres. La couverture du premier tome notamment a été dessinée exclusivement par l'artiste Mathieu Bablé, qui est en fait un auteur-dessinateur français de bande dessinée de science-fiction et qui est notamment connu pour celle de Carbone et Silicium. L'histoire, elle commence en 2068 et bien sûr dans l'espace. Nous allons suivre là le parcours de vie de Yuri, Fi et Hachimaki, qui sont tous les trois des éboueurs de l'espace. Métier d'avenir, je ne sais pas. Pourquoi éboueurs de l'espace ? Eh bien parce qu'après avoir pollué la Terre et exploité l'intégralité des ressources, l'être humain est parti à la conquête de l'espace et petit à petit a transformé l'orbite terrestre en une véritable décharge. Autour de cette problématique, le lecteur va faire des bonds dans le temps et comprendre les différentes motivations des protagonistes à s'investir dans une telle mission. Et en parallèle donc de cette trame, plusieurs réflexions sont engagées autour de questions géopolitiques, écologiques et sociétales. Cette série m'a beaucoup plu, alors pour diverses raisons. Alors la première, c'est le scénario que j'ai trouvé tellement génial, car tellement avant-gardiste quand on sait qu'il a été pensé et écrit il y a plus de 20 ans, et que cette problématique des débris orbitaux est particulièrement d'actualité. D'ailleurs, dans un des dossiers du CNES, qui figure donc à la fin d'un des tomes, j'ai appris que ce qui pouvait apparaître alors il y a 20 ans, en 1999, comme de la science-fiction, est en phase de test pour 2025, puisque l'Agence spatiale européenne est à l'initiative de plusieurs projets de récupération de débris. D'autre part, ce manga me paraît précurseur dans le sens attentif quant à la place qui est réservée aux femmes dans le manga. Effectivement, il y a plusieurs femmes qui occupent des postes stratégiques. L'équipe des éboueurs de l'espace est d'ailleurs dirigée par une mère de famille, Fi, qui a donc délégué l'éducation de son enfant à son conjoint. On retrouve donc des préoccupations actuelles avec la place des hommes dans l'éducation. Et la problématique du racisme, sous quelque forme qu'elle soit, est également présente. Une autre des raisons pour laquelle j'ai particulièrement apprécié cette série, ce manga, c'est que tous ces sujets de réflexion graves sont ici abordés avec beaucoup d'humour. Il y a un passage qui m'a beaucoup amusée pour vous illustrer cette idée. C'est quand un extraterrestre, se prend vraiment la tête à tenter de comprendre les codes sociaux des humains et à les consigner religieusement dans un carnet de poche. Je vous en dis pas plus pour pas vous gâcher la surprise, mais c'est vraiment quand même un bon moment. Et pour finir, le graphisme est très très accessible puisque très réaliste et donc il permet de s'immerger complètement dans l'environnement spatial. Pour clôturer donc ce voyage spatial, je vous laisse à l'écoute de David Bowie avec Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition
1.
And may God's love be with you.
Et on vient d'écouter Space Oddity qui clôture ce zeste de culture d'avril. On vous dit au mois prochain. Merci.
Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle, vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?